Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webcast pour la Virtual Academy concernant l'accès aux données avec .NET. Je m'appelle Sébastien Bertus et je fais partie de l'équipe des évangélistes techniques de Microsoft France. Alors, nous allons attaquer la deuxième partie consacrée à WCF. Et encore une fois, comme d'habitude, vous avez accès à l'ensemble de tout ce que l'on va dire via le fichier Word qui va accompagner ce webcast, ainsi que les sources qui seront évidemment fournies avec le zip attaché. Donc ce qu'on va faire, on va repartir de tout ce qu'on avait fait tout à l'heure. Globalement, on avait un serveur WCF avec un client WCF qu'on a codé entièrement. Et l'idée, eh bien, c'est de changer ce qu'on a fait. Alors, je vais revenir sur l'exemple pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Globalement, l'idée ici, c'est quoi? C'est de dire, moi, ce qui m'embête un petit peu dans ce serveur WCF, c'est que j'ai tout écrit en dur. D'accord? Que ce soit l'adresse du binding HTTP ou l'adresse du binding NetTCP. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce que globalement, lorsque je vais passer en production, ben, ça ne sera pas forcément l'adresse localhost qu'il faudra mettre, pas forcément le bon port. Donc tout ceci fait que si jamais je dois demander l'information et recompiler le projet, ce n'est pas tenable. Donc l'idée, c'est de passer par un fichier de configuration. Et vous savez que qui dit fichier de configuration.net dit application.config. Et on va essayer de voir ce que nous propose le fichier de configuration pour faire transiter nos données. Alors l'idée, globalement, ce qu'on va faire, eh bien, on va réécrire tout ça, mais sous forme XML, ce qui va nous permettre de nous dédouaner, de recompiler l'application quand on doit l'échanger. On va dire que ce n'est pas très compliqué. Donc du coup, ici, ce que je vais faire ici, je vais dans l'application.config et vous allez voir que vous avez un nouvel élément qui s'appelle System.ServiceModel, dans lequel vous allez pouvoir déclarer vos services et on verra qu'on déclarera aussi notre côté client. Donc ici, je vais rajouter un service. Sur lequel je vais lui donner un nom. En général, je lui donne le nom de mon service, donc c'est WCF Services, comme Product Provider. Voilà, ça, c'est pas obligatoire de l'appeler comme ça, Product Provider. Donc, une fois que j'ai ce service-là, eh bien, je vais créer un endpoint. Alors, l'endpoint, c'est vraiment ce qui correspond à ici, hein. Quand je fais Add Service Endpoint, eh bien, je vais écrire la même chose sous format, comme ceci. Hop, endpoint. Je lui donne. Donc un binding qui va donc être d'abord le NetTCP, hein, celui qu'on a historiquement qu'on a fait en premier, NetTCP binding. Je vais lui donner un nom. Alors moi j'aime bien lui donner le même nom que le binding, hein, voilà. Donc, un nom. Je vais lui donner le fameux contrat. Donc le contrat, c'est oui, qui c'est bien, c'est qu'il y a une licence qui est quand même pas si mal. C'est celui-ci. Et on va lui donner l'adresse. Donc là l'adresse forcément il n'y a pas d'intellisense parce qu'il ne la connaît pas et c'est celle-ci que l'on veut utiliser. Voilà, donc là j'ai créé mon premier endpoint, donc j'ai rien oublié, j'ai bien le A, j'ai bien le B, j'ai bien le C, et optionnellement j'ai le nom, et je vais créer un nouvel endpoint, donc on en a deux, hein, qui sera donc celui pour Basic HTTP Binding, voilà, hop, je fais copier-coller pour ça, c'est le même contrat, et par contre cette fois-ci, l'adresse c'est celle-ci, ok, et voilà. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, une fois que vous avez écrit ça dans le fichier de configuration, il ne vous reste plus qu'à supprimer tout ça. Voilà, contrôle cassé. Je vais juste démarrer mon serveur pour montrer que ça fonctionne. Ici, je démarre mon service host. Je fais directement un point open. Et ici, j'ai un petit morceau de code qui va vous permettre de parcourir l'ensemble des service points, des endpoints, pardon, côté service qui sont ouverts. C'est juste pour qu'on ait un aperçu. Donc, si j'exécute tout ça, eh bien, vous allez voir que j'ai pas besoin de spécifier quoi que ce soit pour qu'il aille essayer de récupérer les informations dans l'app.config. S'il voit qu'il n'y a pas de service point ajouté dans le code, il va directement les récupérer de mon fichier configuration. Donc voilà, maintenant du coup, on va pouvoir paramétrer facilement notre serveur. Et côté client, eh bien, c'est la même chose. On va essayer d'enlever ce channel factory qui est ici. Alors ce qui est bien, c'est que ici, je l'ai fait pardon, à la main. Mais en fait, vous avez un petit assistant qui s'appelle le WCF configuration qui permet d'avoir exactement la même chose, mais via une sorte de wizard. Donc je vais faire la même chose côté client. Donc j'aurais pu le faire aussi côté serveur évidemment. Donc côté client, je fais un new client endpoint que je vais appeler. Ah pardon, ça c'est l'adresse. Que je vais appeler. Alors du coup, je vais prendre le basic HTTP binding puisque j'ai déjà l'adresse dans le presse-papier. Donc voilà l'adresse. Pardon, l'adresse est ici, je vais y arriver. Ça c'est le nom. Et après, le contrat. Donc le contrat, c'est le contrat qui se trouve dans l'assemblée WCF Interface et Product Provider. Et le binding, j'ai bon. Donc j'ai le A, c'est l'adresse. J'ai le B, c'est bon. J'ai le C, c'est bon. Et je peux sauvegarder. Je fais un save. Et vous allez voir qu'automatiquement, ça m'a créé dans mon fichier configuration le endpoint, etc. Donc après, moi, je vais plus vite en écrivant à la main. Donc je vais plutôt l'écrire comme ça, net TCP binding, CTRL C, CTRL V, et l'adresse je vais la récupérer d'ici, l'adresse c'est celle-ci, hop, CTRL C, CTRL V. Voilà, donc côté client et côté serveur, je suis tout passé par de la configuration XML, donc ici je vais enlever le morceau de code qui est plus nécessaire, c'est celui-là. CTRL KC. Par contre, il faut toujours que je crée mon Channel Factory, on est d'accord. Et New Channel Factory de e-product provider. Et là, je vais non plus lui passer, comme tout à l'heure, le binding, le endpoint. Je vais lui passer le configuration name. Donc, je vais utiliser le net TCP binding. Pardon, le endpoint qui s'appelle net TCP binding. Parce que le côté client, forcément, il a besoin de savoir s'il doit utiliser celui-ci ou celui-ci. On est bien d'accord. Mais par contre, du coup, j'ai plus de code écrit en dur. Et si maintenant, donc, je vais démarrer mon serveur séparément, Start New Instance, pour vérifier que ça marche. OK, et après, je vais démarrer mon client. Voilà. Donc, je vais les afficher tous les deux. Je vais donc créer une instance ici. Donc là, globalement, ça peut prendre un petit peu de temps parce que il faut qu'il génère le proxy côté serveur, qu'il ait récupéré les données dans la base de données avec Linktour, avec un petit framework. Donc la création de la première instance est toujours un petit peu longue. Vous voyez qu'ici, il l'a faite. Mais globalement, après, les autres appels de méthode sont plutôt rapides. Hein. Voilà. Donc ici, on est passé, c'est exactement le même projet, sauf qu'on est passé tout en configuration et c'est plutôt bien. On va continuer avec la configuration, on va aller encore un petit peu plus loin que ce qu'on a vu maintenant que, pour être très honnête, le fait d'utiliser un fichier configuration est une bonne pratique. Hein. C'est très rare quand on a besoin de l'écrire directement en dur dans le code. Hein. Donc je vais fermer cette application-là et je vais passer sur une autre application qui est globalement la même, sauf que ici vous allez voir que je n'ai plus d'assemblée. Data contract qui permet de le partager entre le serveur et le client. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, mon client n'a pas de référence vers une quelconque assemblée que j'aurais créée moi-même. Et vous voyez, j'ai tout rapporté dans l'assemblée WSL Services, pardon, dans lequel j'ai product et l'interface. Donc, mon serveur, lui, WCF, il continue à fonctionner classiquement. Mais ce que je veux, c'est que WCF, je vais utiliser ce qu'on appelle un comportement de mes bindings. Je veux qu'il expose mes données. Sous format d'un WSDL, donc je vous montre un petit peu ce que c'est après. Donc j'ai tout fait par le fichier de configuration, c'est ça qui est plutôt bien. C'est que globalement ici, eh bien, d'abord j'ai rajouté un endpoint pour me faire plaisir qui s'appelle le WSHTTP Binding, qui est donc du WS étoile, et j'ai mutualisé l'adresse avec le tag base adresse. Donc j'ai une adresse unique, et après globalement quand j'utilise des adresses relatives, il va juste concaténer les deux chaînes. Ça me permet d'être plus rapide dans l'écriture de mes fichiers de configuration. Bon, par contre, pour l'adresse net TCP, je l'écris encore en entier parce qu'elle ne prend pas l'adresse par défaut. Voilà, voilà qui est bon. Et après, j'ai rajouté ici ce qu'on appelle un behavior. Donc, je vais vous le montrer en gros. Ici, le behavior qui s'appelle le service metadata, qui permet d'exposer les données sous une requête, à partir d'une requête HTTP. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser avec ce qu'on appelle un endpoint MEX, qui est globalement la même chose. Bon, c'est peut-être un petit peu plus compressé, il faut dire. Mais le MEX permet aussi d'exposer sous format TCP. Bon, il faut dire que souvent, juste le service metadata est largement suffisant. Donc, juste en ayant rajouté ce behavior, ce comportement, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais lancer mon serveur. Donc, je vais faire un CTRL F5 pour être rapide. Voilà. Il m'a rajouté ici une adresse. Sur un binding service metadata behavior HTTP get binding. Donc cette adresse-là que j'ai mis dans le presse-papier normalement, et vous allez voir que je vais pouvoir le récupérer facilement en mettant point d'interrogation WSDL et automatiquement. Donc là, il faut qu'il compile, qu'il lise le type de contrat et le type d'entité et qu'il génère un fichier descriptif XML. Donc la première fois, c'est toujours un petit peu long. Voilà, donc mon fichier, ma page WSDL a été générée. Et vous voyez qu'on retrouve une page au format XML, donc c'est du SOAP qu'il y a derrière, la grammaire globalement. Donc c'est assez particulier à comprendre, c'est assez verbeux, mais on voit bien qu'on a l'implémentation de l'interface et product provider. Et voire même tout à fait en bas, on a les bindings qui sont exposés, net TCP, basic HTTP et WS HTTP. Donc une fois que j'ai ça, eh bien, je vais pouvoir, depuis mon application client, qui encore je vous le rappelle, n'a aucune référence à quoi que ce soit, rajouter une service référence et lui indiquer cette adresse. Donc l'adresse c'est celle-ci. voilà, que j'ai déjà pré-renseigné. Alors, je vais juste pas me tromper, 89,15, ouais, c'est celle-ci. Go. Alors là, le point d'exclamation, point d'interrogation de WSDL n'est pas forcément obligatoire. Et vous voyez que la magie du truc, c'est que Visual Studio va lire ce fichier WSDL et va automatiquement bien voir qu'il y a une classe de service avec des méthodes et va même générer tout le code nécessaire, que ce soit l'entité ou le proxy. Donc nous, on va appeler ça WSF serveur proxy. Voilà. Proxy. Ok, et vous allez voir qu'automatiquement il va me générer du code. Donc pour l'instant là on ne le voit pas, mais si on fait afficher tous les fichiers, eh bien vous avez des fichiers en dessous, notamment ce qui est intéressant ici c'est le fichier référence.cs dans lequel on voit tout le code qu'il a généré pour nous, que ce soit la classe produit, eh bien l'interface et product provider. Vous voyez que l'interface, eh bien c'est celle que l'on avait décrite côté serveur. Et une classe qui s'appelle Product Provider Client qui hérite pardon de client base, qui est globalement une classe de base qui va faire la même chose que nous au niveau du Channel Factory quand on le faisait à la main. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que Visual Studio m'a généré l'ensemble du code nécessaire pour travailler et moi j'ai pas besoin de m'occuper de comment est-ce que ça se passe. Alors je vais sauvegarder. Une autre chose aussi, c'est que eh bien automatiquement Visual Studio m'a généré les endpoints qui vont bien dans la partie client. Donc ça c'est assez sympa hein, puisque ça c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Visual Studio qui me l'a généré après avoir fait le add service référence. Et du coup dans mon formulaire, vous allez voir à quoi ressemble le code qui en résulte. J'ai directement ici appelé la classe qui s'appelle Product Provider Client hein, qui vient bien de ce que j'ai généré ici, de WSL Server Proxy. Je vais l'instancier et ici je vais juste lui passer globalement le nom du endpoint que je veux utiliser. Et alors, ce endpoint c'est celui que j'ai pris, c'est le NetTCP Binding, celui-ci. Voilà. Et après l'utilisation, eh bien c'est comme ce que vous avez l'habitude de faire. Ce que je fais, eh bien je fais un service.getProduct ici. Et c'est vraiment comme si on l'utilisait en local, sauf que je n'ai pas eu besoin de référencer une assemblée commune. C'est vraiment Visual Studio qui a tout généré pour moi. Après, l'utilisation, c'est exactement la même. Alors, je vais mettre juste un petit point d'arrêt ici pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici, j'ai mon serveur qui tourne. Je vais donc lancer mon client. Voilà, et je vais mettre mon serveur à côté et je vais faire un appel récupérer. Donc, voici ici mon service, c'est un product provider client F10. Il va donc appeler le serveur en NetTCP. Le serveur lui va générer un proxy, voilà qui est fait, et automatiquement, eh bien, j'ai récupéré le numéro 77. Vous voyez que ici, l'appel est fait. Si maintenant je fais un getProductName, ça fait le getProduct, récupérer, etc. Donc là, maintenant, alors c'est vrai que le premier appel est toujours un petit peu long, toujours pareil, mais ça on l'a déjà vu ensemble. Hein, c'est la génération du proxy qui est un peu longue et après c'est relativement très 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 rapide. Voilà. Donc là, le gros intérêt, eh bien, c'est que j'ai pu, eh bien, de façon assez élégante, on va dire, exposer un serveur avec des services et mon client, lui, n'a pas eu besoin d'avoir du code partagé avec mon serveur. Tout ça pourquoi? Parce que uniquement par de la configuration, eh bien, j'ai exposé mes services et j'ai exposé mes métadatas. Dans un prochain webcast, ce que nous allons voir, eh bien, nous allons continuer un petit peu nos expériences avec WCF. Et ce qu'on va faire, on va voir comment est-ce que l'on fait pour exposer la même chose via un serveur web qui est finalement quelque chose d'assez classique dans les architectures distribuées. On a souvent un serveur web qui fait, on va dire, le host de nos services. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, avec les dernières versions de 2IS, on pourra exposer ça sous forme HTTP, voire même sous forme TCP. Et gérer de la sécurité, ce qui est plutôt sympa. Je vous retrouve donc pour le prochain webcast de la Microsoft Virtual Academy sur le chapitre Windows Communication Foundation. À bientôt!